Chapitre 10. Ils eurent une existence presque idéale, jusqu'au jour où Richard emmena Nicky sur les remparts de l'île et qu'elle vit les bateaux.
« Regarde, papy !»
s'exclama-t-elle en désignant les flots. Il n'apercevait rien et le faisceau de sa torche ne portait pas assez loin. Il prit ses jumelles et discerna enfin deux embarcations au milieu de la mer cylindrique. Il installa Nicky sur son dos et courut vers leur refuge. Ses compagnons s'éveillaient et ils ne comprirent pas immédiatement les raisons de son inquiétude. Qui peut venir du nord sinon des troupes de Nakamura? Ils tinrent un conseil de famille. Patrick avoua qu'il était allé voir Cathy peu avant leur départ et que sa sœur avait été intriguée par son comportement.
« Je ne lui ai rien dit » protesta-t-il. « Mais elle n'est pas stupide. Elle a dû tout comprendre après notre disparition. »
Robert se chargea d'exprimer leurs craintes.
« Qu'allons-nous faire? Elle connaît bien New York. Elle était presque une adolescente lorsqu'elle est partie d'ici. Si elle a signalé l'emplacement de ce refuge à nos adversaires, nous serons pris au piège. »
« Y a-t-il d'autres cachettes dans cette île ?»
demanda Max. « L'ancien nid des avions est désert, » répondit Richard. « Mais nous n'y trouverons aucune nourriture. Cela s'applique également à l'antre des octopodes. »«
Il y a les tunnels qui s'ouvrent derrière l'écran, »
déclara Patrick.
« C'est par là qu'arrivent nos repas, non ?»«
C'est la seule possibilité qui s'offre à nous, » reconnut Richard. Il décida de partir en reconnaissance avec Max et Patrick. Ils chercheraient le lieu où on préparait leur nourriture, puis un secteur où il leur serait possible de s'installer. Leurs compagnons resteraient dans l'abri, qu'ils se tiendraient prêts à évacuer d'urgence en cas de besoin. Avant leur départ, Richard testa un nouveau système de liaison radio qu'il avait mis au point à ses moments perdus. La puissance de cet émetteur leur permettrait de rester en contact pendant toute la durée de leur séparation. En suivant les indications portées sur sa carte, ils allèrent jusqu'à l'atelier de transformation qui fonctionnait à plein rendement.
« Nous sommes arrivés », annonça Richard par radio. « Commandez le dîner et nous observerons ce qui se passe. »
Le processus en cours dans la chaudière la plus proche fut interrompu moins d'une minute plus tard. Trois wagonnets dotés d'appendices manipulateurs allèrent prélever de petites quantités de diverses matières premières qu'ils transportèrent vers la machine au repos. Ils déposèrent leur chargement sur le tapis roulant et l'appareil se remit en marche. Un biote filiforme évoquant trois criquets assemblés bout à bout rampa sur la bande de roulement. Un instant plus tard, la machine s'arrêtait de nouveau et les produits finis émergeaient du côté opposé. Un godet se déploya à l'arrière du dernier segment de l'insecte, qui chargea la nourriture sur ses dos, puis décampa.
« C'est incroyable !»
marmonna Max en regardant s'éloigner l'étrange créature. D'autres biotes placèrent des tiges de métal sur le tapis roulant, et la chaudière reprit ses activités précédentes.
« C'est fantastique !» s'exclama Richard. Ce système obéit à des priorités. L'ordinateur central aurait donc interrompu le processus en cours parce que nous nourrir est plus important que le reste, oncle Richard?
Tout le laisse supposer.
J'en ai froid dans le dos,
avoua Max.
Si je m'étais douté que je rencontrerais un jour des machines plus intelligentes que nous...
Richard! Richard!
Fit par radio Nicole.
Ali revient de la berge nord. Elle nous informe que quatre embarcations sont sur le point d'accoster et qu'une sorte d'arc-en-ciel illumine le ciel austral. Vous faudra-t-il longtemps pour rentrer?
Je le crains. Nous sommes dans la salle des chaudières, à plus de 3 kilomètres. A-t-elle précisé si les nouveaux venus sont nombreux?
Une quarantaine ou une cinquantaine d'hommes, papa, répondit Ali. Je ne les ai pas comptés. Et quand je suis reparti en courant, des explosions multicolores ont embrasé le ciel dans le secteur de la Grande Corne.
Richard s'accorda un temps de réflexion, puis ordonna « Évacuez immédiatement le refuge avec les enfants, les oisillons, les pastèques, le bout de Cécile, nos deux fusils et tout notre ravitaillement. allez nous attendre dans la salle d'exposition de l'antre des octopodes. Les soldats de Nakamura visiteront en premier lieu notre abri. Si Cathy les accompagne, ils feront peut-être un saut chez les octos. Mais je doute qu'ils osent s'aventurer dans leur domaine. Et vous ? Nous revenons immédiatement. Au fait, laissez un émetteur dans la salle blanche et un autre dans la pouponnière. Nous pourrons ainsi les entendre s'ils envahissent les lieux avant notre arrivée.
Compris, répondit Nicole. Nous allons préparer nos bagages.
Vous pensez que nous serons en sécurité dans le nid de ces araignées géantes ?
Demanda Max dès que Richard eut terminé.
Nous ne savons pas quel danger nous guette ici. Les octopodes ont pu évacuer leur antre, et comme me l'a souvent fait remarquer Nicole, rien ne prouve qu'ils nous veulent du mal.
Ils s'arrêtèrent pour laisser à Patrick le temps de transférer une partie du contenu du sac à dos de Richard dans le sien.
« Nous devons faire une pause !»
dit Max lorsqu'ils atteignirent l'embranchement.
« Richard n'en peut plus !»
Patrick prit sa gourde et la leur tendit. Richard but, essuya son front avec un mouchoir, puis repartit. Ils étaient à 500 mètres de l'écran quand le récepteur capta des bruits indistincts.
Un membre de la famille a pu oublier quelque chose, déclara Richard en ralentissant le pas.
Puis ils entendirent des voix.
On dirait qu'ils élevaient des animaux là-dedans. Venez jeter un coup d'œil.
Malédiction. Ils ont filé il y a peu.
Capitaine Bauer, que dois-je faire de cet appareil? N'y touchez pas.
Attendons les renforts avant de prendre des décisions. Richard, Max et Patrick s'assirent. Une minute plus tard, Franz Bauer demandait
« Quoi, Morgan? Je vous entends mal. À cause des parasites. Hein? Un feu d'artifice? Mais de quoi parlez-vous? Entendu. Nous arrivons. »
Puis après 15 secondes,
« Ah, vous voilà, Pfeiffer. Réunissez les hommes et remontez. Morgan parle d'un étrange phénomène dans le ciel austral. » Nos gars étaient déjà effrayés par les tours et les ténèbres, je dois aller les rassurer.
Ils vont s'absenter, murmura Richard en se levant. Nous nous séparerons sitôt à l'extérieur. Saurez-vous trouver l'antre des octopodes ?
Max secoua la tête. Tenez, ajouta Richard en lui confiant son ordinateur.
Entrez M et P et vous aurez une vue d'ensemble de la ville. Un cercle rouge désigne notre objectif. Tapez deux L à la suite et un plan des tunnels apparaîtra. En route.
Il n'y avait plus un seul soldat dans leur refuge et le spectacle pyrotechnique captivait trop les deux gardes de faction à quelques mètres de la sortie pour qu'ils leur prêtent attention. Les trois hommes se dirigèrent vers l'antre des octopodes par des voies différentes. Max leva les yeux et admira les explosions lumineuses pendant près d'une minute. Il n'avait jamais rien vu d'aussi grandiose. Il atteignit enfin son but, descendit la rampe d'accès et pénétra dans la cathédrale où s'ouvraient quatre tunnels. Il consulta la carte. Il était si absorbé par l'étude du plan qu'il ne prêta pas attention aux bruissements métalliques et aux gémissements aigus. Et lorsqu'il redressa la tête, l'octopode était à moins de 5 mètres. Il se mit à trembler, mais ne céda pas à son désir de fuir. La chose s'était arrêtée. De la fente verticale abritant la lentille oculaire remplie d'un fluide crémeux, jaillit une onde pourpre qui fit le tour de la tête, suivie par des bandes d'autres couleurs qui disparurent elles aussi du côté opposé.
« Désolé, » fit Max, « je ne saisis pas le sens de ce message. »
L'octopode hésita, puis leva deux tentacules pour désigner un des quatre tunnels. Comme pour tenter d'être plus explicite, il se déplaça dans cette direction avant de répéter son geste. Max se redressa et s'avança. Quand il fut sur le seuil, d'autres ondes colorées suivirent le pourtour de la tête de l'extraterrestre.
« Merci beaucoup !»
dit poliment Max en entrant dans le couloir souterrain. Il attendit d'avoir parcouru 300 ou 400 mètres pour consulter sa carte. Les lieux s'illuminaient devant lui et replongeaient dans les ténèbres après son passage. Lorsqu'il utilisa l'ordinateur, il constata qu'il approchait de son but. Et quand il rejoignit les autres membres de la famille, il arborait un large sourire.
« Vous ne devinerez jamais qui je viens de rencontrer !»
dit-il à l'instant où Éponine se précipitait dans ses bras. Max fit le récit de sa rencontre avec l'octopode et Richard et Patrick retournèrent vers la cathédrale, s'arrêtant tous les 100 mètres pour tendre l'oreille. Une heure plus tard, ils revenaient bredouilles pour participer à la discussion générale. Ils disposaient de vivres pour 5 jours, 6 en se rationnant. Ils avaient de l'eau à leur disposition dans une citerne. Tous estimaient que les troupes de Nakamura ne s'attarderaient pas à New York. Ils se demandèrent si Cathy avait ou non indiqué au capitaine Bauer l'emplacement de la trappe d'entrée de l'antre des octopodes. Un point ne prêtait pas à controverse. Ils ne devraient sous aucun prétexte s'aventurer à la surface au cours des prochaines 36 heures. À l'expiration de ce délai, les jumeaux et les oisillons souffraient de claustrophobie. Richard et Nye emmenèrent Tammy, Timmy, Benji et les enfants jusqu'à l'accès au niveau inférieur. Un puits dont la paroi circulaire était hérissée de tiges métalliques. Richard, qui transportait une fois de plus Nikki sur son dos, mit Nye et ses fils en garde contre les dangers de ce secteur. Mais Galilée courut vers le conduit vertical, sans laisser à sa mère le temps de le retenir. La terreur le paralysa presque aussitôt, et Richard dut aller secourir le petit garçon, agrippé à 2 barres juste au-dessous de la passerelle qui cernait le sommet de l'abîme. Les jeunes aviens, ravis de pouvoir déployer leurs ailes, prirent leur essor et firent des piquets, sans toutefois descendre assez bas, pour déclencher l'illumination du niveau inférieur. Avant de retourner auprès de leurs compagnons, Richard emmena Benji voir ce qu'ils appelaient le musée des octopodes, une vaste salle située à plusieurs centaines de mètres du conduit vertical et désormais vidée de tout son contenu. Des heures plus tard, Richard suggéra à ses compagnons de s'y installer afin de disposer d'un peu plus d'espace vital. Le 3e jour, Richard et Max voulurent savoir si les troupes coloniales étaient encore présentes à New York. Patrick fut désigné pour regagner le niveau du sol et aller jusqu'à la berge nord de l'île afin de découvrir si les embarcations y étaient toujours amarrées. « Et si tu entends un octopode ou un soldat, fais aussitôt demi-tour », lui dit Richard. « À condition que nul ne puisse te voir descendre ici, naturellement. » Tu dois songer avant tout à notre sécurité. » Max insista pour confier un fusil à Patrick, puis tous lui souhaitèrent bonne chance, et il partit. Il n'avait parcouru que 500 mètres lorsqu'il entendit des sons devant lui. Il s'arrêta mais ne put déterminer leur origine. Il avança et reconnut des bruissements ainsi que des claquements métalliques. Conformément aux ordres, il rebroussa chemin. Après de longues palabres, il reçut de nouvelles instructions. Il devrait cette fois se rapprocher des octopodes et les observer. Il remarqua d'autres murmures chuintant à proximité de la cathédrale, mais ne vit aucun extraterrestre. Il avait atteint la vaste salle du bas de la rampe, qu'il décida de gravir pour mener à bien sa précédente mission. Il ne put en croire ses yeux, lorsqu'il découvrit que des tiges métalliques liées par un étrange mortier scellaient la trappe. « C'est l'œuvre des octopodes », se dit-il. « Pourquoi nous ont-ils enfermés ?» Avant de retourner faire son rapport, il inspecta la cathédrale et constata qu'on avait également condamné un des 4 tunnels. « Sans doute le passage qui conduit au canal. » Il tendit l'oreille, mais n'entendit plus rien.